IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue dans l'économie en direct, ravie de vous retrouver sur IDFM Radio pour un nouveau temps d'échange consacré à celles et ceux qui font vivre notre territoire. Aujourd'hui, mardi 14 avril 2026, nouvelle découverte de trois adhérents du réseau Parisis Business, un club d'affaires dynamique qui rassemble des entrepreneurs engagés au parcours complémentaire. Un réseau avec lequel IDFM Radio a le privilège d'être partenaire, une collaboration précieuse qui permet de mettre en lumière des talents et des savoir-faire. Ce matin, trois univers, trois métiers passionnants, le paysage, l'électricité et un métier souvent méconnu, celui de détective privé. À mon micro, Thierry Schlesser, chef d'entreprise du paysage chez Espace Nature et Jardin. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour Jacqueline.
Laurent Destrée, électricien, gérant de l'entreprise Gauthier. Bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Et Nicolas Decoupigny, détective privé, directeur d'enquête. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue à tous les trois en direct dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Alors on commence peut-être par un tour de table afin que chacun d'entre vous se présente en quelques mots. Donc Thierry, je vous donne la parole.
Bonjour, alors du coup, merci du coup de nous avoir invités. Je suis installé depuis maintenant à mon compte 19 ans, ça fera 19 ans au mois de juin que j'ai créé ma société qui s'appelle Espace Nature Jardin. Tout au début, j'étais effectivement dans un petit appartement à Franconville et de fil en aiguille, voilà, c'est une belle aventure. On est aujourd'hui une dizaine de salariés et j'ai en parallèle créé la société ENJ Service qui donne le droit à du crédit d'impôt pour les particuliers.
Ah, très bien, donc tout à fait autre chose alors.
Alors non, c'est toujours du paysage.
Ah oui.
On ne fait que du paysage, d'accord. Sauf que nous avons séparé la clientèle de particuliers,
ouais,
pour pouvoir avoir un agrément qui nous permet de faire défiscaliser 50% d'un plafond par an et par foyer fiscal.
D'accord. Ah oui, c'est le fameux... Même les particuliers peuvent avoir droit à ça, c'est ça ?
Que les particuliers, c'est que d'ailleurs. Les particuliers, c'est du service d'aide à la personne, oui, le SAP.
D'accord.
Qui englobe énormément de services, dont les travaux,
oui,
de jardinage.
C'est très, très utile. Hein,
exactement.
Absolument. Merci Thierry. Laurent, donc je vous laisse vous présenter rapidement.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Enfin, quand je dis rapidement, on rentrera alors dans le vif du sujet.
Laurent Destrée, entreprise Gauthier. Moi, j'ai repris l'entreprise Gauthier il y a maintenant 6 ans. Donc l'entreprise Gauthier est une entreprise qui a été créée en 78 par monsieur Claude Gauthier, qui a été repris en 98 par monsieur Ouah, et moi j'ai repris l'entreprise il y a 6 ans. Donc c'est une entreprise qui est basée à Pontoise. Et nous nous occupons du particulier, du professionnel, donc au niveau électricité, habitation, tertiaire et industriel. Donc ça va de la simple changement d'ampoule aux gros travaux électriques, aux tableaux électriques, refonte totale d'une installation, que ce soit chez le particulier, chez le professionnel. Et moi, j'ai apporté aussi à l'entreprise les postes haute tension,
d'accord,
c'est-à-dire les distributions énergie des entreprises.
Très bien. Et puis, je crois que vous êtes aussi dans l'événementiel.
Tout à fait.
On en parlera tout à l'heure.
Je suis aussi dans l'événementiel, tout à fait.
Merci, Laurent.
Merci.
Nicolas.
Eh bien, d'abord, merci de me donner l'occasion de parler d'un métier assez méconnu.
C'est vrai.
Voilà, donc ça, c'est une belle opportunité. Personnellement, j'ai en fait créé cette société d'enquête il y a à peu près 2 ans. Alors, c'est une reconversion professionnelle.
Oui.
C'est un métier que je voulais faire depuis longtemps. Moi, je viens du monde des affaires et non pas de la police ou de la gendarmerie comme beaucoup de mes collègues.
Mmh.
Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion de développer un petit peu ce que c'est que le métier de détective privé.
Oui, moi, j'aurais des questions à vous poser, voilà. C'est clair. Voilà. Merci, Nicolas, merci. Eh bien, à nouveau, bienvenue d'être chez IDFM Radio. On marque une pause et on se retrouve pour les interviews un peu plus costauds. Et on fait une pause avec Christophe Maé, son titre « Belle demoiselle ». À tout de suite.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, topé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle, oh non, qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle, qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et ce matin, c'est notre spécial Paris Is Business avec à mes côtés Thierry Schlesser, chef d'entreprise du paysage chez Espace Nature Jardin, Laurent Destré, électricien gérant de l'entreprise Gauthier et Nicolas Decoupigny, détective privé et directeur d'enquête. Je voulais aussi vous remercier tous les trois parce que je sais que vous aviez ce matin votre réunion au Paris Is Business et que vous avez pu quand même être au rendez-vous, donc merci à vous. Alors Thierry, on commence avec vous. Peut-être nous présenter votre entreprise un peu plus longuement. J'ai compris que vous avez, donc il y a 19 ans que vous avez créé. Quand vous disiez que vous étiez dans un appartement, c'est-à-dire alors, ça veut dire quoi?
Déjà, ça fait dizaines d'années maintenant que je suis adhérent du Paris Is Business.
Oui.
Donc sans doute avec Monsieur Rebout, le président, un des plus ancien de cette association. Mmh. Et on est toujours très content de s'y retrouver, effectivement, comme vous le disiez, le mardi matin de 8h à 9h pour échanger, recommander des affaires entre membres dans la bonne humeur souvent et la bienveillance. Mmh. Voilà. Oui, alors Cette aventure a commencé déjà par rapport à une formation professionnelle. Ça a été un métier choisi depuis la fin de troisième, si vous voulez,
oui.
Par l'intermédiaire d'une formation professionnelle avec un BEP, CAP associé. Et puis après, derrière, un brevet de technicien en travaux paysagers. Et j'ai été par la suite sur une autre, dans la même filière, mais sur une autre spécificité du métier qui est la production pépinière. Voilà, pour être
d'accord.
Producteur pépiniériste d'arbres et d'arbustes. Voilà.
Très bien.
Des métiers très complémentaires.
Oui, oui.
Oui, alors.
Vous êtes situé où ?
Géographiquement, l'entreprise est située à Saint-Aulomone, dans le parc d'activité des Béthunes.
Et la pépinière aussi ?
Alors, j'ai pas de pépinière.
Ah
en
non,
revanche, c'est
pas.
Une formation
ah oui,
que
vous avez fait,
que
mais...
j'ai, mais je n'ai pas de pépinière.
Ok.
Voilà. J'ai commencé effectivement cette activité à Franconville, à Lépine-Guyon, dans un petit appartement. J'étais tout seul. Je voulais me mettre à mon compte et j'ai prospecté en mettant des petits papiers dans les boîtes aux lettres, des beaux jardins que je trouvais sur ma route où j'ai ciblé quelques secteurs et j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait confiance et donc du coup voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma première clientèle.
Très bien. C'est un métier que vous avez toujours eu envie de faire?
Alors oui, c'est un métier, effectivement, j'ai été bercé, j'ai un papa qui vient de la campagne, qui est très pêche, nature, chasse, et qui avait une maman qui faisait tous les ans le concours des balcons fleuris, et qui, originaire de l'Est de la France, vous savez que là-bas, il y a énormément de géranium, on fait vraiment...
Ah oui, c'est magnifique.
Voilà,
oui,
tout est vraiment très, très en fleurs, et donc j'ai toujours été, effectivement, voilà, bercé dans cet univers du végétal.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que les jardins comptent beaucoup, hein. Je crois, enfin en tout cas, quand on a une maison ou comme vous dites un balcon, hein, c'est important d'avoir de la verdure. Est-ce qu'il y a des tendances en matière de création de jardins ?
Ah, complètement. Faites bien de le souligner. On ne fait plus du tout les jardins comme on les faisait il y a 20 ans ou il y a même 30 ans. Il y a des effets de mode comme pour le prêt-à-porter, effectivement. On conçoit aujourd'hui des jardins qui répondent aussi aux besoins de la vie moderne, donc avec un minimum d'entretien, mais on tient compte aussi des changements climatiques.
Oui.
Donc, tout ça, en fait...
On en parlera, oui.
Et voilà, tout ça fait qu'effectivement, le jardin se conçoit plus comme on pouvait le faire avant, mais on fait des choix plus raisonnés quant à la conception.
Voilà. Et alors, du coup, vos clients, est-ce qu'ils recherchent davantage l'esthétique, le pratique ou le durable ? Peut-être les trois ?
Effectivement, c'est là où c'est des fois un petit peu un challenge, c'est qu'il faut réussir à allier ces trois caractéristiques pour être vraiment dans le jardin qui correspond, en tout cas, sur la région Île-de-France, à la demande des clients qui sont de plus en plus aussi, ou qui ont de moins en moins de temps et qui veulent juste profiter de leur jardin.
Oui, parce que alors ça vous oblige probablement aussi à redécouvrir des nouvelles races d'arbres, enfin ou je sais pas par rapport on va parler de l'enjeu climatique, hein, parce que c'est un vrai défi.
Alors effectivement, ce sont pas forcément les essences et les variétés qui sont nouvelles, simplement qu'on va puiser dans ce qu'on a en catalogue sur les climats un peu plus méditerranéens. Donc des plantes qui vont être un peu plus résistantes aux sécheresses. Et dans ce cas-là, on a les lavandes que vous connaissez très bien, le romarin, le thym, des plantes un petit peu de garrigue qui, elles, résistent fortement à la sécheresse, mais aussi des petits sédums qui vont permettre de faire des toitures végétalisées,
ça pousse bien.
Qui sont très colorées. Et on va allier ça à du minéral de façon à créer vraiment des jardins décoratifs, végétal et minéral, qui vont demander beaucoup, beaucoup moins d'eau, forcément, que des plantes qu'on avait l'habitude d'avoir avant.
Là, vous êtes en train de nous dire que l'entretien des espaces verts est devenu un véritable enjeu écologique.
Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Il faut arrêter de consommer autant d'eau que ce qu'on faisait avant. Et on ne fait plus du tout non plus l'entretien comme on le faisait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raisonne et on parle de gestion différenciée. L'entretien aussi du jardin avec moins d'arrosage pour consommer moins d'eau, mais aussi... une façon d'entretenir qui va être moins aseptisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un beau jardin, c'est pas un jardin qui est tondu permettez-moi l'expression, à râler pâquerette, c'est justement un jardin où on va avoir de la biodiversité, où on va avoir de la vie, parce que on va laisser justement pousser ce gazon et toute la végétation, la flore spontanée, de façon à voir tout l'écosystème renaître. Et là, on va du coup découvrir les coccinelles et la symbiose qu'il peut y avoir avec les pucerons, les fourmis et les hérissons. Enfin, voilà, on va réintégrer toute cette faune et cette flore de façon à retrouver cet équilibre.
Et donc, si on par exemple, on a de la mauvaise herbe qui pousse, enfin, ce qu'on appelle la mauvaise herbe, à la place du gazon, faut la laisser pousser, alors ?
De la flore spontanée, plus exactement, parce qu'une mauvaise herbe...
C'est beaucoup plus
voilà, c'est
joli.
Ça. Est-ce que ça existe une mauvaise herbe ? Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe ?
C'est une
herbe qui n'a rien à faire à l'endroit où on ne veut pas qu'elle soit, tout simplement. Mais oui, alors, on peut toujours l'enlever manuellement pour éviter sa prolifération, bien entendu, parce qu'on a certaines mauvaises herbes qui sont invasives et qui vont au fil des années vous changer complètement le paysage.
Ah oui.
Donc il faut les limiter, mais de façon peut-être plus naturelle. Et après, si vous souhaitez des beaux massifs, on a des palliatifs qui vont être de mettre du paillage suffisamment en épaisseur pour limiter la pousse mauvaises herbes et qui a en plus un gros avantage, c'est qu'il va conserver l'eau dans les sols.
Oui. Est-ce que vous êtes un adepte de silence ça pousse ?
Oui, alors si vous voulez, j'ai regardé bien sûr cette émission. Stéphane Marie est est une personne très très compétente dans le métier. Et j'aime beaucoup regarder ces émissions. Après, je suis pas toujours fan
de
toutes ces réalisations. Maintenant, les sujets qui sont abordés sont très intéressants,
quand même,
bien sûr.
Thierry, je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on reprend cette interview juste après. On va écouter Le pouvoir des fleurs par Laurent Voulzy. À tout de suite.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums.
Changer les âmes, changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour de
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct. Ce matin, nous avons notre spécial Parisis Business et je suis en entretien avec Thierry Schlesser, fondateur et dirigeant d'une entreprise de paysage Espace Nature Jardin. Thierry, je crois que dans les sujets que vous souhaitiez aborder, il y a l'attractivité des métiers du paysage et le recrutement. C'est un vrai problème dans votre activité?
Alors, le recrutement, c'est un problème, je pense, dans tous les métiers aujourd'hui de l'artisanat.
Je vois Laurent qui opine du chef.
Voilà. Et pourtant, ce sont des métiers indispensables et très attractifs. De par la diversité du métier de paysagiste, on va du travail du sol au semis, à l'entretien, à un petit peu d'électricité de jardin, de la petite maçonnerie. C'est vraiment un métier avec beaucoup de facettes. Mmh. Et on a des belles écoles aussi dans le coin qui nous forment des jeunes. Et nous, tout l'enjeu qu'on a en tant que chef d'entreprise, c'est effectivement de partager cet amour du métier pour que nos jeunes aient envie de faire ce métier.
Oui, oui, oui. Mais donc, à travers ce que vous dites, on comprend que c'est pas simple de recruter, c'est ça? Ou en tout cas de fidéliser?
Oui, alors effectivement, les jeunes, vous savez, aujourd'hui, il y a quand même aussi une évolution de la carrière, du travail. C'est pas évident. Maintenant, si on veut faire ce métier-là, il faut aimer être dehors, parce que c'est un métier qui s'exerce effectivement dehors. Donc, il faut être prêt à subir les conditions climatiques, toutes. Du froid, qui est de moins en moins extrême, mais des fois quand même, les doigts sont un peu, ça pique.
Mal anglais, voilà. Oui.
et aussi des grosses chaleurs de l'été. Alors, on s'adapte, bien entendu.
Avec les horaires, j'imagine.
Avec les horaires, exactement. On travaille plutôt le matin pour finir avant que le soleil soit au zénith. On s'hydrate énormément aussi, évidemment. Voilà. Mais ce sont des métiers, effectivement, il faut aimer bouger, aimer être dehors, qui sont et physiques et techniques.
Mmh. On voit dans les équipes, soit communales, soit sur des terrains de sport, je pense au terrain de golf, on voit de plus en plus de femmes aussi dans ce métier.
Oui, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des métiers réservés à la gente masculine, bien au contraire. Y a besoin de technicité, il y a besoin de finesse, il y a besoin d'aimer ce qu'on fait, tout simplement, d'avoir envie de bouger, de pas être toujours enfermé, parce que il y a besoin d'être aussi sur des phases de conception dans le travail. Mais c'est des métiers qui sont accessibles à tout le monde, bien entendu.
Oui. Et du coup, alors l'organisation et la rentabilité des chantiers, comment vous la gérez?
Alors l'organisation, moi je compte sur des équipes, hein, je fais pas de ça tout seul, bien entendu. Je laisse énormément d'autonomie à mon personnel, parce que je pars sur une base de confiance. Je souhaite que les gens s'épanouissent, donc, et dans leur travail, et donc je leur laisse cette marge de manœuvre qui pour moi est indispensable à l'épanouissement personnel. Nous on commence relativement tôt le matin, parce qu'il faut quand même partir et aller sur nos chantiers, qui sont sur l'île de France, hein, pour la majeure partie quand même. Donc on évite, on essaie de partir tôt pour éviter les heures de pointe.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est un problème de l'île de France, c'est qu'on met beaucoup de temps à se déplacer. Mais voilà, on essaie d'être pour 8 heures sur nos chantiers, on s'adapte, on fait le travail, et les gars doivent rentrer, quittent le dernier chantier pour 16 heures et rentrent au dépôt après.
D'accord, très bien. Je reviens juste parce que on en a parlé rapidement, mais l'enjeu aujourd'hui, donc, c'est la gestion de l'eau. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de végétalisation des espaces urbains. Vous êtes aussi dans ce domaine?
Alors, nous, on fait pas trop d'espaces urbains. On va travailler avec des centres commerciaux.
Oui.
Voilà, notamment. On leur apporte effectivement des solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour conserver l'eau, on va pailler l'ensemble des massifs. Mmh. Voilà. On va aussi adapter la végétation avec des végétaux qui vont être plus résistants aux sécheresses. Et du minéral, voilà. On joue vraiment avec ces caractéristiques-là, végétales et minérales, de façon à créer un paysage.
Et vos clients, vous sentez qu'ils ont cette prise de conscience vis-à-vis de l'eau aujourd'hui ou pas forcément?
Pas forcément. Vous savez, c'est très compliqué de faire évoluer les mentalités. Et on a eu tellement l'habitude d'avoir des beaux jardins tout le temps bien verts. C'est compliqué d'accepter d'avoir un jardin qui jaunit un peu en été, qui est tondu un peu moins ras. Voilà. Dans l'esprit des gens, c'est pas propre, c'est pas un beau jardin. Et il faut qu'on s'habitue à ça parce que.
Oui, parce que ça va pas aller en s'arrangeant.
Bien entendu. Il faut redéfinir la notion du beau et de l'entretenir, en fait.
Oui, je comprends. Donc vous, ça vous oblige aussi toujours à être, à faire des recherches ou ça vous vient naturellement d'arriver
alors,
à composer?
On se tient informé, bien entendu, par la presse spécialisée, par tous les médias qui sont horticoles. On a beaucoup de partenaires aussi. On a de la presse qui va nous permettre de trouver un peu les salons aussi. On a de très très beaux salons qui sont plutôt sur la région lyonnaise. Qu'il faut absolument faire pour pouvoir s'inspirer, trouver des nouveaux fournisseurs et se tenir informé par des conférences aussi lors de ces salons sur les enjeux climatiques.
Et est-ce que vos clients ont une bonne perception du métier par rapport justement à ce que coûte l'entretien d'un jardin? Parce qu'on, forcément, on trouve toujours que c'est trop cher.
Alors effectivement, ce qui va définir le coût d'un entretien de jardin, c'est le temps qu'on va y passer. Donc il va falloir qu'on trouve, nous nous adaptons, et c'est le propre de l'humain, à la clientèle et aux besoins du client et aux finances du client. Donc on va essayer de lui simplifier le jardin quand on le conçoit, de façon à lui réduire un maximum l'entretien, donc le temps à y passer pour que le jardin soit beau.
Voilà. D'où votre volonté d'être en SAP? Parce que vous avez compris que c'était une valeur ajoutée, probablement.
Exactement, oui. Le service à la personne permet de faire bénéficier nos clients de crédits d'impôts. Donc, il faut espérer que ça dure encore, parce qu'il est question quand même
de trouver
des économies partout. Donc, voilà, pour le moment...
Ce serait un mauvais calcul de supprimer cette niche, en tout cas, parce que...
Je pense
quand même,
aussi.
Thierry, on fait encore une pause et là, je vous propose d'écouter le duo Joseph Kamel et Julien Doré, Beau. Et on se retrouve tout de suite après.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste, elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau,
si tu voyais comme c'est beau.
J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau, si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio avec ce matin notre spécial Parisis Business en compagnie de Thierry Schlesser, chef d'entreprise du paysage chez Espace Nature Jardin, Laurent Destré, électricien gérant de l'entreprise Gautier, et Nicolas Decoupigny, détective privé, directeur d'enquête. Thierry, encore quelques questions. Je crois que vous deviez évoquer votre professionnellement vos besoins, quels seraient-ils?
Le recrutement, clairement, il faut effectivement qu'on arrive à avoir une stabilité dans l'emploi et puis des jeunes passionnés parce que comme je vous le dis voilà c'est des métiers passion et il faut pas simplement avoir une capacité à pousser une tondeuse. Mm-hmm. Ça en tout cas dans mon entreprise c'est pas un critère de sélection.
Oui. Et puis alors vous me disiez en pendant la pause qu'il y a pas mal de concurrence avec des auto-entrepreneurs qui s'installent comme ça du jour au lendemain. Comment vous luttez contre cette concurrence un petit peu entre guillemets déloyale?
Oui, alors effectivement déloyale, certaines personnes se rendent compte qu'ils sont pas forcément des fois moins chers mais simplement comme ils collectent pas de TVA, ils sont 20% plus chers, mais ils ont l'impression de faire une bonne affaire. Après il y a du travail pour tout le monde. Il faut le savoir. Moi j'essaie d'orienter ma clientèle en fonction de l'évolution de la société. Donc j'ai compris que certaines fois il y avait une mutation et qu'il fallait pas lutter et qu'il fallait peut-être changer de d'orientation. Donc aujourd'hui nous travaillons de plus en plus avec des grosses copropriétés, avec des centres commerciaux, notamment celui de Montmorency, le centre commercial qu'on a pas très loin d'ici, mais aussi d'autres à Gennevilliers, à Aubergenville. Voilà, on essaye de se diversifier en faisant des jardins un peu plus collectifs, on va dire.
Oui, je comprends. Vous avez une actualité à nous annoncer. Vous êtes revendeur des Watt Box. Alors expliquez-nous ce qu'est une Watt Box.
Ah, exactement. Alors la Watt Box, c'est 100% français. C'est fabriqué en Vendée par mon amie Delphine Guérin. C'est breveté. Ce sont des panneaux qu'on habille avec ou du clairvoix ou du thermolaqué, enfin entièrement personnalisable. Ce sont des piscines semi-enterrées ou hors sol, et je souhaiterais moi ne faire que de la petite piscine, voilà, moins de 10 mètres carrés, parce qu'il y a qu'une demande préalable de travaux à faire.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et qu'effectivement ça évite aussi les problèmes d'imposition. Ce sont des piscines qui sont très esthétiques et qui sont construites très rapidement, parce qu'effectivement elles sont, une fois que le terrassement est fait et que la dalle de béton est coulée, on vient les spitter, mettre un liner, et elles ont un tas d'options qui permettent de leur mettre par exemple une banquette balnéo, tout le système de filtration peut être intégré dans les parois, donc c'est pas déporté, tout ça, ça simplifie énormément si vous voulez le travail, et ça permet de pas avoir besoin d'énormément de place pour s'équiper de ces mini piscines.
D'accord. Et vous pouvez nous donner une idée de prix?
Alors tout confondu entre le terrassement et puis l'installation, on est entre 20 et 25 000 selon ce qu'on va vouloir comme option. À savoir si on veut une pompe à chaleur, si on veut la banquette balnéo, mais sur du premier prix, on va tomber vers 12-15 000.
Très bien, très bien. Donc, bah, écoutez, voilà, pour les jours chauds à venir, il y a la clim et puis maintenant il y a les piscines. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite repenser son jardin aujourd'hui ?
Alors, de bien réfléchir à... Déjà, ça, c'est une base. L'ensoleillement, l'exposition du jardin et quel usage il veut faire de son jardin, quelle ambiance il aimerait avoir, et en fonction de ça, on va s'adapter nous et proposer des projets qui vont correspondre aux besoins du client.
Très bien. Et puis bon, bah je voulais vous demander pourquoi avoir rejoint le Parisis Business, mais vous nous l'avez dit en début d'interview, donc un club d'affaires où vous vous sentez bien.
Exactement, oui. Beaucoup de bienveillance. C'est un club dynamique. On échange du business et on est toujours très content de partager un pain au chocolat, un café avec ce qui est devenu aujourd'hui des copains en fait.
Très bien. Voilà. Merci infiniment Thierry Schlesser, donc chef d'entreprise du paysage chez Espace Nature et Jardin. Merci pour ce regard à la fois technique et sensible sur un métier qui embellit notre quotidien. Merci à vous. Allez, on fait une nouvelle pause. Cette fois, je vous propose encore un soir par Céline Dion, puisqu'on entend beaucoup parler de Céline Dion ces derniers jours. À tout de suite.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure. Encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais. Il est tard, c'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent et caresser, juste un baiser, un baiser, encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout,
soir.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Merci d'être resté à notre écoute. C'est l'économie en direct. Et ce matin, nous avons notre spécial Parisis Business, hein, en compagnie, donc nous venons d'interviewer Thierry Schlesser, mais à présent je suis avec Laurent Destrée, électricien gérant de l'entreprise Gautier, et Nicolas Decoupigny, détective privé, directeur d'enquête. Alors Laurent, expliquez-nous votre parcours un petit peu.
Alors moi, mon parcours, j'étais au lycée professionnel parce qu'au début, l'école c'était pas mon truc du tout. Donc j'ai pris tout de suite une filière professionnelle au niveau de la troisième. Et puis de là, j'ai passé mon CAP, mon BEP et puis mon bac pro électrotechnique.
Très bien. Donc. Et l'électricité, vous l'avez choisi, c'est à ce moment-là que vous avez choisi d'aller dans l'électricité ou pas forcément?
Pas du tout, c'était depuis tout petit que je bricolais beaucoup, et puis avec mon grand-père, avec mon
père. Vous faisiez sauter les plombs?
Non, avec des petites ampoules, avec des petits bouts de fil au bois, avec des piles, donc ça m'amusait, puis c'est là que j'ai eu le déclic de l'électricité.
Oui, voilà. C'est formidable de pouvoir comme ça, accomplir un rêve d'enfant finalement. Et les clients que vous accompagnez, qui sont-ils aujourd'hui?
Alors, c'est 60% de particuliers et 40% de professionnels, donc oui. des grosses entreprises. Donc, le particulier, ça peut aller du tableau électrique, oui. Juste une installation complète de A à Z, l'alimentation d'un portail motorisé, une alarme, parce que je fais aussi de l'alarme.
D'accord.
Sans fil. Et puis de l'intrusion aussi avec des caméras.
Ah oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus en pourcentage? Vous avez une activité qui est le plus importante dans quel domaine?
Le particulier.
Le particulier. Oui.
Le particulier.
Et les évolutions majeures dans votre secteur, parce qu'il y a beaucoup de normes, d'innovations. Vous parlez de sécurité. Alors, aussi, comme Thierry, il faut toujours vous tenir. Au courant des innovations.
C'est qu'à de le dire, tout à fait. Donc il y a beaucoup de normes, c'est vrai. Il faut aller en formation assez régulièrement pour justement se mettre à la page et puis aux nouvelles normes. Et c'est de ce côté-là justement que des fois les clients ne comprennent pas forcément quand on leur explique un petit peu les dangers de l'électricité avec des vieux tableaux électriques qui sont pas du tout normes. Donc,
Il y
en a encore beaucoup.
Ah oui, pourtant,
malheureusement.
Au niveau des assurances, c'est implacable.
Bah oui, mais il y en a encore beaucoup. Pas trop en locatif, mais beaucoup propriétaires.
Oui,
en maison, de ville, oui.
D'accord. Ouais.
Donc en leur expliquant, parce que des fois ils sont un petit peu récalcitrants, ils savent, Monsieur Destrée, du moins que ça fonctionne, c'est le principal. Donc on leur explique les dangers, je leur explique les dangers, ce qu'il faut se mettre aux normes avec le disjoncteur différentiel, des choses comme ça. Donc en leur expliquant, en leur démontrant, ils arrivent justement à
oui, vous arrivez à les convaincre.
Oui. Ouais, Enfin c'est plus pour le. Après c'est beaucoup de la sécurité aussi.
Bien
en
sûr.
Leur expliquant la sécurité,
oui,
ce qu'ils craignent eux, ce qu'ils peuvent.
Ce qui est curieux, c'est que leur assureur devrait aussi les sensibiliser sur ce problème, puisque c'est hyper important.
Tout à fait.
Et on parlait avec Thierry de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, il y a aussi les enjeux énergétiques. Vous arrivez à faire aussi prendre conscience à vos clients de ces enjeux?
Des fois oui, des fois non. Ça, malheureusement, nous aussi, on l'enjeu énergétique électrique moins consommé pour mieux être soit chauffé, soit prendre des ampoules à LED, des choses comme ça, plus d'ampoules à filament. Bon, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Et puis des radiateurs moins gourmands en électricité. Des choses comme ça, donc j'arrive à les convaincre et puis à qu'ils franchissent le pas des fois.
Ouais. Le problème souvent qu'on a avec un électricien, c'est les urgences. Comment vous faites pour répondre?
Alors moi, ce que je fais, c'est que dans mon planning de la semaine, j'essaye d'avoir des trous, justement, de garder des petits trous pour les urgences.
Ouais.
Bon, après, je travaille tôt le matin, tard le soir, ça me dérange pas.
Vous êtes combien dans votre équipe?
Je suis tout seul.
Tout seul, d'accord. Tout seul. Ah oui, donc vous ne devez pas chômer.
Je ne chôme pas, il y a ce qu'il faut. Mais ouais. Bon, après, c'est vrai que j'avais un salarié, mais le salarié a voulu partir. Donc, et puis, je me suis dit, je préférais faire une pause. C'est vrai que Thierry en parlait tout à l'heure du recrutement, c'est pas évident.
C'est pas évident, oui. Vous prenez pas d'alternant?
Non.
Vous avez pas cette volonté?
Non.
Et alors, aujourd'hui, quel est le plus grand défi pour un artisan comme vous aujourd'hui?
Déjà de faire des économies d'énergie par rapport à mes clients, de leur proposer encore plus d'économies d'énergie. Pour les industriels, la même chose. Donc j'essaye de leur qui s'équipent d'éclairage LED, de basse consommation, qu'ils puissent avoir moins de factures à la fin du mois, factures plus légères. Donc j'essaye de veiller à ça. Après, les gens sont réceptifs. Il y en a qui sont pas réceptifs.
Ça
a un coût aussi. Donc on essaye de leur proposer tout un panoplie de choses
pour être au mieux.
Pour être au mieux, c'est
Nicolas, ça. Nicolas, vous avez votre tableau électrique, il est aux normes?
Ah oui, alors moi je fais attention à ça. En plus, ça m'arrive d'avoir des locataires dans deux résidences que j'ai.
Donc vous êtes vigilant.
C'est non négociable.
C'est ça, oui. Oui, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un atout majeur. Alors, Laurent, vous êtes aussi dans l'événementiel. Alors, expliquez-nous ça.
Alors, je travaille depuis plusieurs années aussi dans l'événementiel, la partie événementiel, c'est-à-dire que tous les ans, entre à peu près le 15 novembre et le 15 janvier, on a les mairies qui veulent des chalets, des choses comme ça.
D'accord.
Donc moi, je travaille en partenariat avec la société Procène Events qui se trouve à Tichy, dans l'Oise. Mm-hmm. Donc moi, je m'occupe de toute la partie électrique. Donc la mairie, des fois, nous met à dispo des armoires électriques et je dois faire tout le câblage pour justement veiller à ce que chaque chalet soit bien alimenté avec les dispositions nécessaires dedans.
Oui, ça doit être intéressant à faire.
Ça occupe beaucoup de temps.
Ça occupe beaucoup. Comment vous faites pour gérer les autres clients?
Je travaille non-stop, des fois tard le soir, tôt le matin, donc j'essaie de caler tout le monde, c'est pas évident, mais on y arrive.
Vous êtes basé où, Laurent?
Alors, moi, l'entreprise est à Pontoise, 16 rue Ampère. À Pontoise.
Il faut le faire, c'est vraiment...
Il faut remercier ma femme, c'est elle qui l'a trouvé.
C'est incroyable, ouais.
Voilà.
Et vous, pourquoi vous êtes, depuis quand et pourquoi avoir rejoint le Parisis Business?
Si vous voulez, moi, l'ancien gérant de l'entreprise m'a présenté au Parisis Business donc il y a 6 ans maintenant. Et puis j'ai trouvé l'ambiance vachement sympa, décontractée, avec de la bienveillance, comme disait Thierry tout à l'heure. Mmh. Et puis on est sérieux aussi, on se fait du business, mais quand c'est vrai qu'on a des petits moments de pause où justement on plaisante un petit peu, donc j'ai trouvé ça.
Ça vous a plu?
Ça m'a plu tout de suite. Ouais.
Et vous trouvez, parce que bon, le but du Parisis Business, c'est aussi, comme vous dites, de faire des affaires. Comme vous aviez un service commercial à demeure. Au niveau retour sur investissement, vous en êtes content?
Oui. Et puis moi, j'essaie de favoriser au maximum les entreprises du Parisis Business. Donc c'est-à-dire que je vais chez un client pour lui faire un dépannage électrique ou un tableau électrique. Il va me parler de choses et d'autres, et puis il va me dire, j'ai un problème de plomberie, tout ça. Donc je pense que
vous faites de la recommandation.
De la recommandation beaucoup au Parisis.
Et ça marche bien.
Oui.
Ça marche bien. C'est bien. Laurent, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre?
Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Après. Je fais aussi vous me parliez tout à l'heure de l'événementiel.
Oui.
Je fais aussi les animations aussi, guirlandes de Noël, les choses comme ça.
D'accord.
Donc j'alimente aussi toutes ces choses-là. Après les choses spécifiques que les clients veulent, Monsieur Gaillon m'en parle. Donc après, on se met en relation avec et puis on essaie de le satisfaire au mieux qu'on peut.
Bien sûr.
Que ce soit pour des concerts ou des choses comme ça.
Oui, oui, oui. Ah. Oui, vous êtes au fond, ça vous apporte peut-être un côté un peu plus fun dans votre métier.
Tout à fait, ouais, tout à fait. J'apportais l'ancien gérant de l'entreprise faisait beaucoup de particuliers. Mmh. Moi, j'ai rapporté le professionnel, la haute tension et puis l'événementiel.
C'est ça. Ouais. Quand vous dites la haute tension, c'est-à-dire précisez-nous.
Pour les alimentations des grosses usines, pour les postes de transformation. Ah, oui. Donc, je fais aussi beaucoup d'entretiens.
Donc là, vous travaillez avec des entreprises pour le coup.
Ah oui, oui. Là, on travaille jamais tout seul. On travaille toujours soit en binôme ou soit à plusieurs, mais jamais tout seul. La haute tension, c'est malheureusement, il y a deux cas. La haute tension, c'est soit on est électrocuté ou soit on est éjecté. Ouais. Donc c'est très dangereux. Faut pas faire n'importe quoi.
Avec des normes de sécurité importantes.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Pour vous trouver, pour faire appel à vous, Laurent, que faut-il faire si nos auditrices et auditeurs ont besoin de vos services?
Alors, si on a besoin de mes services, on peut me trouver 16 rue Ampère à Pontoise, sur le numéro de fixe, donc 01 30 30 58 15, sur mon portable 06 77 05 52 75, qui est H24, 7 jours sur 7 allumé. Donc si vous avez besoin d'un dépannage, que ce soit vraiment pour le particulier, professionnel, je me déplace partout.
Il n'y a pas de problème. Très bien. Ben merci beaucoup. C'est des informations qui se retrouveront sur le podcast.
Merci à vous.
Merci Laurent Destré, chef d'entreprise de l'entreprise Gautier. Encore une pause cette fois. Donc je vous propose un classique de Niagara, L'amour à la plage.
C'est IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. C'est l'économie en direct avec ce matin notre spécial Parisis Business en compagnie de donc Laurent Destrée, électricien, gérant de l'entreprise Gautier, Nicolas Decoupigny, détective privé, directeur d'enquête, et Thierry Schlesser qui a dû nous quitter parce qu'il avait des rendez-vous. Nicolas, Nicolas, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer justement lors d'une visite au Parisis Business. Alors c'est vrai que des détectives privés, on n'en rencontre pas souvent. Et alors moi, ce qui m'intrigue tout de suite, vous êtes détective privé, directeur d'enquête. Donc c'est quoi la nuance ?
Alors c'est une très bonne question. Donc d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas basé rue Vidocq, hein, comme Laurent Destrée, rue Ampère. Ça aurait été un choix assez sympathique.
Oui, au 36
quai des Orfèvres, effectivement. La différence entre un détective privé et un directeur d'enquête, en fait, il y a trois niveaux quand vous êtes détective privé. Vous pouvez être simplement salarié ou diriger une entreprise, ce qui est mon cas, ce qui vous permet d'avoir des salariés enquêteurs.
Ah, d'accord.
Et donc le statut, bon, c'est un petit peu technique, mais donc on parle de directeur d'enquête dans ce cas-là. C'est-à-dire que je peux déléguer une personne, m'associer à un agrément qui est donné par le ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'est très réglementé, et c'est pour ça qu'il y a des différences en fait dans les statuts en fonction du parcours qu'on a fait. En ce qui me concerne, c'est un parcours à l'université de Panthéon à Sas.
D'accord.
Pour faire ce métier, donc il faut avoir une licence de droit professionnelle, donc qui est sur 2 ans.
D'accord, très bien. Et donc vous nous disiez en préambule que vous aviez une autre activité et puis que vous aviez vraiment envie de faire ça, donc vous avez décidé de vous reconvertir.
Exactement. Alors moi, il y a une phrase de Kobi Yamada, auteur, que j'ai fait mienne, qui dit « Si vous ne savez pas où aller, suivez vos rêves, car eux connaissent le chemin. »
D'accord. Voilà.
Donc, c'est une idée, enfin, un métier que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors, j'étais parti dans une voie complètement différente, hein, puisque j'étais dans le monde de l'entreprise. Mon dernier métier salarié, donc je dirigeais la filiale française d'un groupe coréen, donc absolument rien à voir. Quoique, parce que quand on a travaillé dans le monde de l'entreprise, ça vous donne aussi des compétences pour travailler sur des domaines liés au droit social, notamment. Donc cette reconversion, je l'ai faite un peu tardivement, mais ça correspondait à un moment de ma vie où je me suis dit, bon, allez, c'est un petit peu la routine, et j'ai voulu me challenger un peu. Et donc, je suis reparti sur les bancs de l'université,
hein,
avec des élèves de 20 ans. Donc, c'est très enrichissant. Alors, il n'y avait pas que des élèves de 20 ans, puisque il y a aussi des gens qui se reconvertissent après une carrière plus longue. Mais voilà, c'était un beau challenge. Mmh. Et surtout que le droit, c'est beaucoup, on fait beaucoup appel à sa mémoire. Donc il paraît que le meilleur moyen de garder sa mémoire, c'est de la cultiver. Donc c'était une belle occasion.
Mais donc vous aviez dans l'idée d'être détective privé.
Voilà. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui me suivait depuis un petit moment. Et puis je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc c'est le moment. Et je regrette pas du tout mon choix.
Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes
Ça fait à peu près 2 ans.
2 ans.
2 ans, oui. 2 ans d'activité. Et j'en suis très content avec le recul parce que c'est un choix qui est un petit peu particulier, hein, je reconnais. Mais aujourd'hui, avec le recul...
Vous regrettez pas.
Je regrette pas du tout.
Mais alors donc, vous avez empoché vos diplômes et puis vous êtes devant votre téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver les clients. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a besoin d'un détective privé.
Alors, c'est pas tous les jours. Par contre, il y a énormément d'occasions.
C'est vrai.
Puisque nous, on balaye un spectre d'activités très large. Alors, ça va, bien sûr, de l'image classique de l'adultère. Bon, c'est quelque chose qui existe. C'est pas forcément ce qu'on recherche comme affaire, même si on en fait de temps en temps. Mais ça peut aller très loin. Alors je sais que vous aimez bien les petites anecdotes. Je vais vous raconter ma dernière enquête, que je racontais ce matin d'ailleurs au club. C'était en fait la recherche d'une personne. Alors ça, c'est assez classique, hein, rechercher des personnes. Par exemple, il y a quelque temps, on a recherché un amour de jeunesse. d'une personne, donc il avait perdu depuis 15-20 ans. Et bah, il voulait savoir ce que cette personne était redevenue, était devenue, etc. Donc, on est allé jusqu'au bout, on a trouvé. Après, bon, l'histoire ne nous dit pas ce qui s'est passé, hein, parce que ça ne nous concerne plus après. Mais en tout cas, on fait souvent des heureux.
Hein, vous avez utilisé les réseaux sociaux?
Oui, pour après, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà. Il y a un terme un peu technique, hein, qui s'appelle l'OSINT. C'est dans notre métier, on en parle souvent. C'est ce qu'on appelle l'open source intelligence. En fait, c'est un terme un peu pompeux pour dire que c'est des méthodes de collecte et d'analyse de renseignements à partir de sources d'informations publiques et légalement disponibles.
D'accord.
Légalement accessibles.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les moteurs de recherche, alors pas forcément ce grand public, mais il y a des moteurs de recherche plus spécialisés, on arrive à avoir énormément d'infos. Et aujourd'hui, je pense que dans notre temps d'enquête, on passe plus de temps au bureau que sur le terrain.
Certainement. Hein? Ouais. Mais est-ce que la vision qu'on a du détective privé, donc qui poursuit en voiture, qui se met dans un coin pour observer, c'est une réalité ou c'est fiction?
Oui, non, c'est une réalité. Puis ça fait aussi partie du côté fun,
du job,
un peu du métier. Hein. Alors, quand on fait un stage, parce que quand on fait des études, on est obligé de passer par le stage. Alors, on fait que ça. Donc, c'est un peu barbant à la fin, la surveillance, de la filature, etc. Par contre, c'est très formateur.
Mm-hmm.
Bon. On apprend beaucoup. Après, oui, alors, c'est un métier où les gens sont assez discrets. Je pense pas qu'il y ait beaucoup qui prennent le temps de venir à la radio pour expliquer un peu ce que c'est que ce métier. Pourtant, voilà.
Y a... Ah bah non, c'est bien, au contraire.
Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais effectivement, oui, il y a encore une partie un peu se cacher derrière des lunettes de soleil ou dans des véhicules un petit peu modifiés pour observer sans être vu. Oui, il y a encore des preuves à récolter en utilisant ce genre de moyens. Des fois, le terrain est indispensable, bien sûr.
Et alors, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'entreprise, vous disiez que ce qui est classique, c'est l'adultère, mais ça peut être aussi de suivre un commercial indélicat qui fait de la concurrence déloyale.
Oui, alors ça
effectivement, déjà arrivé, ça.
Ça arrive, oui, bien sûr. C'est malheureusement. Alors, qu'est-ce qui vient le plus souvent? Alors, il y a les fraudes à l'assurance.
Ah oui.
Ça, c'est, voilà, les faux accidents de voiture. Les faux cambriolages, etc.
Bon. Donc là, c'est les assurances qui font appel à vous.
Donc là, on travaille pour les assurances.
D'accord.
Donc c'est un cadre assez particulier.
Oui.
Parce qu'eux n'ont pas forcément les structures pour enquêter sur place. Mais après, comme je vous disais, le spectre est très large. Et ce qu'on appelle le droit social, le droit de le monde de l'entreprise, ça peut être aussi la concurrence déloyale. Mmh. J'ai eu un cas récemment, un chef d'entreprise qui a revendu sa société et qui en a créé une. Avec une activité assez similaire, il a récupéré son portefeuille de clients, ce qui était illégal
surtout s'il avait signé une clause de non-concurrence.
Exactement. Donc, donc là, il a fallu prouver effectivement les choses. Ça peut être, mais dans des domaines complètement différents. La recherche d'une personne. Dans les sociétés, oui, on a quand même beaucoup de demandes. Les accidents du travail. Les arrêts de travail non justifiés ou, pire, les gens qui en profitent pour faire une activité parallèle, tout en étant rémunérés par la sécurité sociale.
Oui. Ça, et dans ce cas-là, c'est qui vous missionne? C'est
ça
la sécurité sociale?
Non, c'est plutôt l'ancien employeur.
Oui.
Là, dans un cas concret, l'employeur ne payait plus son employé, son salarié, mais il était toujours dans les effectifs. Il avait toujours droit à l'intéressement, participation, etc. Et moralement, ça lui posait un problème de savoir qu'il travaillait par ailleurs et qu'il continuait à toucher de l'argent de la société.
Et alors donc, quand vous établissez le fait que cette personne est vraiment... vous la prenez la main dans le sac, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est une transaction? C'est un procès? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, d'abord, il faut toujours rappeler, et ça c'est vraiment primordial, qu'on travaille toujours dans un cadre légal.
Oui.
S'il y a qu'un seul article de loi à retenir, hein, sans rentrer dans le détail, il est très simple, c'est l'article 9 du Code civil qui dispose que chacun a droit au respect de la vie privée.
D'accord. Voilà.
Et ça, c'est un absolu dans notre métier. Il faut que toutes nos enquêtes soient proportionnées et se fassent dans un cadre légal. Donc, quand on a une enquête qui peut être dans un cadre judiciaire ou qui peut déboucher sur une procédure judiciaire, on va faire un rapport, d'abord un contrat, bien sûr, pour avoir un cadre légal, pour enquêter avec une vraie raison, mais surtout, on va faire un rapport, ce qu'on appelle un rapport circonstancié, qui va être produisible en justice.
Oui, voilà. Oui.
Donc, il faut faire très attention aux termes qu'on emploie. Et il faut prouver tout ce qu'on avance. Et ensuite, c'est en général le juge qui va décider s'il retient ou pas notre rapport dans le cadre de l'enquête, dans le cadre de la procédure.
D'accord.
Voilà comment ça se passe.
Sauf si la personne souhaite une transaction, et dans ce cas-là, vous passez pas devant le juge.
Alors, nous, c'est la question du client,
celui qui nous mandate.
Oui. Nous, on est payé pour donner des informations, c'est tout. Ensuite,
oui, c'est
ce qui se passe derrière,
ça vous concerne plus.
Voilà, on a parfois des demandes où les gens veulent juste savoir, mais pas forcément faire une action derrière. C'est juste l'information qui les intéresse.
Ouais.
J'ai eu par exemple une recherche de personnes. Ça arrive assez souvent, malheureusement, dans une famille, les gens se fâchent. Les parents ont perdu la trace de leur enfant depuis 15 ans. Et je me souviens qu'ils m'ont juste demandé, on veut savoir juste si elle est vivante, si elle a des enfants, si elle est heureuse.
Ouais,
bon, la notion de bonheur est subjective, mais on l'a retrouvée. On a dit voilà, elle a telle adresse. Et les parents ne sont pas allés plus loin.
C'est ça.
Mais c'était voilà, ils voulaient savoir. Si elle était toujours vivante. Et là encore, je pense qu'on a contribué un peu à amener un petit peu de bonheur à ces personnes. Quoi.
Laurent, ça vous est déjà venu à l'idée de faire appel à un détective privé ?
Pas du tout. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que je perds mon animal de compagnie ? Est-ce que tu peux me le retrouver ?
Alors, le retrouver, la question est très bien formulée parce que on nous demande souvent, est-ce que vous pouvez nous le retrouver ? Non, on peut vous le rechercher.
Oui.
Maintenant, il faut savoir que c'est pas une science exacte, toutes nos enquêtes, et que on a une obligation de moyens et jamais de résultats. Alors, de fait, dans la plupart, c'est un peu prétentieux de dire 100%, mais la plupart de nos enquêtes, elles aboutissent. On trouve un résultat, qui peut être parfois une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein. Mais en tout cas, on met en jeu tous les moyens à notre disposition pour retrouver un animal. Eh ben, on va utiliser donc par exemple les enquêtes de voisinage, tous les moyens légaux pour retrouver. Alors, ça s'est pas encore produit, mais ça pourrait très bien arriver. Effectivement, on mettrait en jeu tous les moyens possibles, mais sans garantie de résultat, malheureusement.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que le métier a évolué ces dernières années ?
Alors, il a plus qu'évolué parce que il y a eu un basculement au début des années 2000. Ou avant 2000, en fait 2004 exactement, la profession n'était pas réglementée.
Oui.
Donc n'importe qui,
vous,
moi, voilà, sans avoir de formation ou d'agrément particulier, pouvait se déclarer détective privé pendant ses heures perdues. Bon, ce qui a amené à beaucoup d'excès et de problèmes.
Bien sûr.
Donc le législateur a décidé de réglementer. Donc maintenant, il y a eu des obligations. Donc c'est assez contraignant, ce que je vous disais, en ce qui me concerne, 2 ans de droit et un agrément qui est pas automatique, parce qu'il y a une enquête sur le casier judiciaire de la personne.
Bien sûr,
c'est très sérieux, très très sérieux. Et pour
ça répondre, rassure en même temps.
Oui, c'est rassurant, bien sûr. Mais pour répondre concrètement à votre question, il y a 20 ans, il y avait 8000 agences en France et il y en a aujourd'hui 800.
Ah oui.
Donc
oui,
ça a été divisé par 10.
Ça a élagué le...
Donc il y a eu un écrémage. On estime qu'avec les salariés au total, il y a à peu près 1600 détectives privés en France. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 20 ans.
Et alors, quelle est la différence entre fiction et réalité dans votre métier ?
Ben, ça dépend ce que vous entendez, ce que vous appelez fiction. Alors, ce que vous pouvez voir des fois dans les fictions, c'est des comportements qui sortent du côté légal. Mmh. Et nous, on ne peut pas se permettre de travailler dans l'illégalité. Mmh. Alors, après, je reconnais qu'il y a parfois de l'interprétation. Je vous parlais tout à l'heure, au début, de la notion de vie privée,
oui.
Qui n'est pas toujours claire vis-à-vis du législateur. Et ça évolue tous les jours. La jurisprudence aujourd'hui fait qu'on est obligé d'être vigilant là-dessus. Il y a notamment des arrêtés maintenant, des arrêts plutôt de cours de cassation européenne, par exemple, qui font que ça modifie les références du droit français.
Ah oui, 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 oui.
Je vais prendre un exemple concret. Il y a eu une affaire en Espagne où en fait des salariés ont été pris la main dans le sac à voler dans une entreprise.
Oui.
Bon. Aujourd'hui, enfin jusqu'à peu de temps, en France, vous ne pouviez pas attaquer les salariés s'ils n'avaient pas été informés au préalable du but des caméras, si c'était pas dans le règlement intérieur,
oui, oui.
Etc., etc. Mm-hmm. Donc c'était très compliqué. Et cette entreprise espagnole a pu aller en justice et attaquer ses salariés grâce à des caméras sans forcément ils aient été prévenus de la destination de ces caméras. Donc du coup, ça s'applique au droit français.
Ah oui, ça peut passer d'un pays à l'autre.
Bien sûr.
D'accord.
Donc, du coup, ça, c'est pour ça que je vous disais la fiction ou la réalité. Nous, on est toujours dans un cadre légal. Ça, c'est un absolu, non négociable. Mais le droit évolue. Et du coup, c'est l'interprétation du juge qui va faire que, dans certains cas, ça va être possible. Dans d'autres cas, ça va être impossible.
Vous nous citiez tout à l'heure le cas de comment prouver qu'il n'y a pas eu de cambriolage. Donc, vous vous y prenez comment, concrètement?
On ne va pas donner tous nos secrets, parce que...
on aimerait bien.
On est soumis aux secrets professionnels. Il y a plusieurs façons de faire, mais bon, je pense que, comme dans beaucoup de métiers, en fait, la dimension psychologique est importante. En échangeant avec les personnes, les victimes avérées...
Il faut que vous rentriez plus ou moins en contact avec ces personnes.
De voir sur place, d'expliquer ce qui s'est passé, voir les contradictions, les témoignages éventuellement du voisinage. Et puis, vous savez, quand on vous raconte une histoire, quand vous vérifiez factuellement, vous pouvez vite découvrir qu'il y a des contradictions. Donc, chaque cas est différent. Sinon, il n'y a pas un mode d'emploi universel qui permet de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Après, quand les assurances nous contactent, c'est qu'elles ont de fortes présomptions. Alors, je le dis aux auditeurs... qui seraient pas au courant, mais moi je sais que les assurances ont maintenant des logiciels type intelligence artificielle qui vont analyser en fait tous les aspects, tous les paramètres d'une déclaration. Il y a un red flag qui va apparaître en disant attention, étant donné toutes les circonstances, ça peut être une fraude à l'assurance.
D'accord.
Donc quand on arrive déjà sur un terrain qui est un petit peu peu chaud, quoi.
Un peu piégé.
Voilà. Ouais.
Nicolas, est-ce qu'on peut parler de tarifs dans votre métier?
Oui, alors, bien sûr, il faut en parler. Alors, j'ai un site, nous avons, parce qu'on est plusieurs à travailler, nous avons un site, c'est le groupe Serval Détective.
Oui.
Donc, j'invite les gens à aller voir, parce que ça indique exactement. Alors, Serval, c'est comme l'animal de l'opération Serval en Afrique. C'est un félin qui est discret, qui travaille surtout la nuit, qui laisse pas de traces. C'est un petit peu notre façon de travailler, si on devait caricaturer. Pour les tarifs, nos tarifs sont transparents. Pour répondre aussi concrètement, un détective privé en région parisienne, on va dire, ça coûte 100 € de l'heure.
D'accord.
Bon, ça, c'est pour vous donner à peu près un cadre. Alors, attention, 100 € de l'heure, en fait, c'est le tarif de l'agence. Mais parfois, on peut être un, deux ou trois à travailler sur une mission.
Oui, pour
en fonction du contexte, on va décider. On va décider. Si on fait une filature, pour prendre l'exemple, aujourd'hui, une filature en région parisienne, c'est 3 personnes.
D'accord. C'est 300 euros.
Alors non, parce que on peut décider de facturer que 100 euros.
Ah, oui.
Après, ça va dépendre de chaque cas. Ce qu'on va devoir facturer, par contre, c'est les frais de déplacement, s'il y a plusieurs véhicules, etc. Mais après, c'est à nous d'apprécier les moyens qu'on va mettre dans chaque mission. Mmh. Alors, on travaille toujours par devis. Mmh. Alors, des devis qui sont jamais définitifs,
oui,
dans le sens où...
Qui sont modifiables au fur et à mesure,
voilà,
oui.
On fait en général un minimum au bout de 4 heures. C'est vraiment la référence. On fait un point avec le client. On dit voilà ce qu'on a comme info. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Et après, on facture à l'heure en fonction de ce que le client nous aura donné comme consigne. Mmh, mmh. Mais en tout cas, on n'impose jamais une prestation sans en avoir parlé avant.
Mais alors, une mission, en moyenne, ça dure combien de temps? C'est pas évident, ça.
Ça peut durer 10 minutes.
Oui.
Concrètement, ou ça peut durer 6 mois. C'est vraiment deux exemples que j'ai en tête. 10 minutes, c'était... une personne âgée qui voulait retrouver son fils,
oui,
qui pensait qu'il était disparu. Et en fait, quand j'ai eu le nom, le prénom, bah, je suis allé sur les réseaux. J'ai commencé, comme tout le monde, par LinkedIn. Mm-hmm. J'ai trouvé le nom de l'entreprise. J'ai appelé le standard. J'ai demandé à parler à la personne. Je l'ai eu et je dis, voilà, votre père vous recherche. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas appelé. Fin de l'histoire. Mm-hmm. 10 minutes.
D'accord.
Voilà. Et puis, d'autres affaires. Alors, on n'a pas parlé, mais j'ai quand même beaucoup de dossiers sur des locataires indélicats.
Ah oui.
Et ça, c'est malheureusement très, très fréquent. Alors, j'ai même travaillé pour moi-même sur une affaire. Donc, les locataires étaient mal tombés. Mais le coup classique, c'est soit de la sous-location,
oui,
organisée. Mais surtout, c'est des locataires qui partent en laissant une belle ardoise. Mm. Et alors, on peut, ensuite, il y a des procès, la loi autorise, par exemple, en passant par un commissaire de justice, de saisir le salaire du locataire indélicat, mais sauf que le commissaire de justice, l'huissier, hein, c'est le nouveau nom pour huissier, lui, il fait pas d'enquête.
Oui.
Il faut qu'on lui donne le nom de l'employeur. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous, on est souvent entre le bailleur et le commissaire de justice pour retrouver les locataires indélicats. C'est typiquement ce type d'enquête. Alors, la question, c'était combien de temps ça prend?
Oui.
Ben là, il y a une affaire, ça a duré 6 mois parce que la locataire avait complètement disparu. Elle laissait aucune trace parce que, en général, ces gens-là n'ont pas qu'une seule dette. Mm-hmm. Donc, c'est un mode de vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que, voilà.
Ouais.
Donc, ils se cachent de tous les créanciers. Société de recouvrement, etc.
Ils changent d'identité, peut-être?
Alors sans aller jusque-là, ils vont simplement habiter chez des personnes, tout simplement. Donc, ils n'ont pas d'adresse officielle. Mmh. Donc, un huissier ne peut pas non plus envoyer un parent par recommandé, tout simplement. Mmh. Donc, il faut essayer de trouver où ils habitent et de là, trouver où ils travaillent pour ensuite pouvoir donner les coordonnées de l'employeur au commissaire de justice.
Mmh. Mmh. Laurent, je vous en prie.
Des fois aussi, il faut voir dans quel état il laisse le logement.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bah, en général, c'est un tout. Hein. Et oui, au moins, il y a une cohérence quand les gens sont malhonnêtes. Mmh. Ça va jusqu'au bout. Hein.
Ouais,
moi, j'avais, pour parler une fois concrètement, une filature d'une locataire indélicate. Ça a été ma filature en voiture la plus dangereuse parce que la personne respectait pas du tout le code de la route.
Ah, oui.
Elle grillait tous les feux,
ah,
etc.
Oui. Ah, oui.
Et je dis au moins il y a une cohérence quoi. Quand vous respectez pas la loi, bah au moins quand vous conduisez, là il y a. Et là c'est vraiment très délicat parce que soit vous perdez la filature tout de suite, soit vous prenez le risque. Je vous dirai pas ce que j'ai fait.
Non. Et alors pour reprendre la question de Laurent à propos de son animal de compagnie, vous avez déjà eu ce genre
alors
de
non,
demande?
Non, j'ai pas eu à faire ça. Je peux comprendre. Moi, j'ai aussi un animal de compagnie. Donc je conseille aux gens d'équiper leur chien maintenant avec des traceurs s'il y a un risque. Maintenant c'est pas la solution parfaite hein, parce qu'on peut mettre un tracker sur un animal, pas sur une personne, je le rappelle pour ceux qui auraient des envies là-dessus, c'est formellement interdit. Il vaut mieux faire une filature qui est autorisée que de mettre un tracker
sur le portable
Portable, sac à main, voiture, c'est 1 an de prison, 35 000 euros.
Ah oui.
Et c'est un facteur aggravant si vous êtes en couple avec la personne.
D'accord.
Il faut le savoir. Peu de gens le savent parce que c'est tellement tentant, tellement facile a priori, sauf que si vous faites avoir, vous risquez péril.
Oui. Un an de prison, 35 000 euros.
Ouais. Donc sur un animal, par contre, faites-le, si ça peut aider.
Parce que Laurent, vous avez eu ce cas, vous avez perdu un animal de compagnie.
Alors oui, mon animal de compagnie est parti malencontreusement et puis on l'a retrouvé 3 mois après.
Ah, 3 mois.
Il était pas très loin de la maison, il était juste derrière, mais il était chez un habitant avec comme il était logé et nourri, il était heureux.
D'accord.
Donc en fin de compte, c'est en passant des petites annonces sur internet, des choses comme ça, qu'on a réussi à le retrouver.
Mais c'est votre voisin qui l'avait récupéré ou c'est votre animal qui est allé loger chez lui?
C'est mon animal qui était logé chez lui. Du coup, lui, comme il savait pas qui il était, il l'a récupéré.
Il l'a récupéré, sans vouloir vous nuire, quoi.
Oui, sans vouloir vous nuire.
Il savait pas que c'était votre animal.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Il a découvert la petite annonce qu'on avait postée, puis du coup, il nous a appelé.
Ah oui, d'accord. Voilà.
C'était un chat, j'imagine.
Oui. Ouais. Merci, Nicolas de Coupigny. Alors, je vous ai pas demandé pourquoi avoir rejoint le Parisis Business, hein, et puis depuis quand?
Alors, moi, je suis un des derniers arrivants. Je suis arrivé fin 2025. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Mais ma première motivation, c'est pas de faire du business.
Oui.
Même si, de fait, ça contribue, et ça, j'en suis ravi. Mais vous l'avez compris, mon métier, même si je travaille avec d'autres enquêteurs, c'est un métier où on est un peu seul.
Vous êtes seul, oui.
Et moi qui viens du monde de l'entreprise, ce qui me manquait, c'est la machine à café. Vous savez, le matin, où vous venez un petit peu raconter vos malheurs, écouter un peu l'histoire des autres, vous sentez moins seul. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le club du Parisis Club, Business Club, et j'en suis vraiment ravi.
Je comprends. Bah écoutez, merci en tout cas, merci pour nous avoir donné toutes ces précisions, puis d'avoir un petit peu démystifié ce métier passionnant, et puis trop souvent entouré de clichés. Merci à vous.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Voilà, c'est déjà la fin. Est-ce qu'on a le temps de faire une pause encore, Francky, ou non? Non. Alors donc, avant de se quitter, place au mot de la fin. Donc je vous redonne la parole, Laurent, avant de nous quitter. Un mot avant de nous quitter.
Si vous avez besoin d'un électricien qualifié, diplômé et sérieux, faites appel à l'entreprise Gautier.
Et qui répond aux urgences. Hein.
Qui répond aux urgences rapidement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, quand c'est vraiment urgent.
Merci Laurent Destrée, donc gérant de l'entreprise Gautier. Merci à vous.
Merci à vous.
Nicolas de Coupigny.
Oui. Alors, moi, j'ai juste une seule phrase. C'est, si vous avez des doutes et que vous recherchez la vérité, faites appel à nous. Alors, le siège de la société est à Paris.
Oui.
Personnellement, moi, je suis basé dans le 95, du côté de Taverny. Voilà, donc on est répartis sur à peu près toute l'Île-de-France. Et si on peut vous aider, on le fera.
Et alors, du coup, vous avez une répartition géographique attribuée? Oui, c'est ça.
Alors, on a une répartition géographique et sociale.
C'est-à-dire qu'on,
et au niveau des âges, on va de 22 à 61 ans, c'est moi, en l'occurrence, parce que chaque contexte est différent. Et voilà, si je dois faire une enquête sur la vie d'un adolescent qui va en discothèque alors qu'il n'est pas censé y aller, on va plutôt mettre quelqu'un qui a 22 ans
jeune,
que moi.
Oui. C'est ça, oui. Donc tout est bien, voilà. Tout est bien réfléchi.
Exactement.
Très bien.
Merci.
Merci infiniment. Donc on n'a pas le mot de la fin de Thierry qui a dû partir, mais en tout cas merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci pour votre témoignage et puis votre passion dans ce que vous faites. Et puis merci également au Parisis Business pour cette belle collaboration et pour son rôle dans la mise en réseau et la valorisation des entrepreneurs.
Plaisir.
Et je peux rajouter que si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant, indépendant ou porteur de projet, vous pouvez venir découvrir ce club lors de leur rencontre hebdomadaire ou de participer à une soirée. Hein. J'ai vu que vous aviez eu votre soirée club là il n'y a pas longtemps et que ça avait cartonné. Merci Francky pour la technique. Merci chères auditrices, auditeurs pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur EDFM Radio pour une nouvelle émission au cœur de notre territoire et de celles et ceux qui le font vivre. Et vous avez apprécié cette émission, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Rendez-vous vendredi pour une nouvelle émission de l'économie en direct sur IDFM Radio. Belle journée et belle semaine, mais bien sûr, restez connectés sur notre antenne pour la suite des programmes. À bientôt.
IDFM 98FM.
I'm like a fish in a bowl, all I can do is go around in circles. Not clear in my head, don't get it. How could you ever let me down? Don't want your friendship, I think you're missing the point. You know that ship sailed, she's adrift and gone. She hit the ocean floor, just let it go. I heard you were all around town. You wanna be messing up my mind for sure. Acting like a dog, drop the bone, let it go. In a bowl, I go around and around. It's time I wear the shoes of a woman. See me walking, baby, you ain't gonna see me sinking down. I want a fresh start, I have a vision of cool. I like a safe dude, I'm done playing the fool. And I forget about the times you let me down. It's gonna be
down. Make it right, make it right.